Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, on vous parlera de Prison Architect, un petit jeu indépendant qui vient de sortir en alpha. Ensuite, on vous parlera d'une découverte que j'ai fait cette semaine sur Internet et qui va intéresser beaucoup de fans de TIFF 2 et de System Shock 2, mais on vous en dira plus tout à l'heure. On s'attardera un peu sur Platinum Games, un bug gênant sur Borderlands 2, et on parlera des succès de la 360 qui sont récompensés. Et pour finir, notre jeu du moment, Faster Than Light. Allez, c'est parti! Bonjour à TH.
Salut.
Alors, comme je vous le disais, on va parler de Prison Architect. Alors, pour vous présenter un peu ce jeu, c'est une espèce de Dwarf Fortress, en gros un jeu de gestion, sauf que là, vous allez, au lieu de gérer des nains sur montagne, vous allez gérer une prison, vous allez devoir la construire. Il vient tout juste de sortir en alpha, et en fait, ils ont fait un peu une alpha à la Minecraft, c'est-à-dire que vous pouvez précommander le jeu pour avoir l'alpha, en fait. Alors bon, moi je vous avoue que je trouve ça quand même un peu cher, il demande quand même 30 dollars, c'est pas une petite somme, et j'estime quand même que pour une alpha, je trouve qu'on prend un risque, etc., et que quand même les gens pourraient avoir en échange de ces prises de risque un prix réduit, mais bon, ils ont pas choisi cette méthode-là, donc n'empêche que le jeu a l'air vachement sympa. Moi je sais pas, un jeu où tu dois construire ta prison, tu dois gérer les émeutes de prisonniers par exemple, ça penche tout de suite.
Ouais mais si t'as le boss, si comme boss final t'as Michael Scofield, t'es dans la merde toi. Le mec avec ses tatouages, ok c'est par gauche, allez hop.
Alors a priori je vous dis tout de suite, le jeu il doit tourner à peu près sur n'importe quelle configuration, hein. La tranche du jeu c'est vraiment un jeu en 2D très basique. Bon, je vous rassure, d'un autre côté, c'est pas non plus du Dwarf Fortress en ASCII et tout, où tu dois taper toutes les commandes au clavier, non. C'est quand même un jeu moderne, entre guillemets, c'est-à-dire tu peux utiliser ta souris, ça marche.
Mais il est en 2D, mais c'est quoi, du pixel art ou bien c'est de la belle 2D, quoi?
C'est de la 2D un peu à la... Bah justement, à la Faster Than Light dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas du pixel art, c'est une 2D assez simple, en fait. C'est pas non plus, c'est pas du haut d'un sphère, quoi, non plus, c'est pas une 2D vachement travaillée. C'est une 2D assez simple, mais c'est mignonnet, quoi.
Simple, mais efficace, quoi.
Voilà. Exactement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a une belle surprise cette semaine sur TIFF 2 et System Shock 2. Cette surprise, en fait, elle est venue étonnamment d'un forum français. Et, en gros, ce qui s'est passé, c'est que un parfait inconnu a débarqué sur ce forum et il a posté un patch. Un patch pour System Shock 2 et TIFF 2 qui, je le rappelle, sont quand même des jeux assez anciens. System Shock 2, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est l'ancêtre de BioShock. C'est la même équipe, d'ailleurs. Et TIFF 2, ben voilà, c'est le jeu où tu joues un voleur, d'infiltration et tout. C'est un des premiers jeux d'infiltration à la première personne. Et c'est vraiment un excellent jeu. Si vous l'avez pas fait, absolument faites-le parce que ce jeu est juste génial.
Ça serait un bon moyen de le faire pour ceux qui sont un peu réfractaires au style des graphismes, quoi.
Alors, pour vous expliquer un peu ce qu'apporte ce patch quand même, c'est pas juste un patch comme ça en fait. En gros, c'est un patch qui modifie carrément le moteur. Pour vous donner une petite idée des ajouts qui ont été faits, ils sont passés de 1024 polygones affichés à l'écran à 20480. Tu vois, la possibilité ajoutée au moteur. Au niveau du nombre d'objets affichés à l'écran aussi, on est passé de 128 à 1280.
Excuse-moi de te couper, mais je sais pas si t'as vu avec Half-Life, et il y a un projet qui est sorti par des indépendants qui s'appelle Black Mesa. Ouais. Ils ont repris le jeu Half-Life et ils ont retravaillé les graphismes en fait, et ouais. Ils ont changé un petit peu des éléments. Est-ce que ce patch il se rapproche un peu de ça en fait?
Ah non, c'est très différent. Black Mesa, en fait, ils ont repris le moteur d'Half-Life 2, ouais. Et ils ont fait un jeu avec. En gros, ils ont refait Half-Life 2, ils ont repensé totalement le game design, etc. Ça, c'est pas du tout ça. Ça, en gros, c'est un patch qui, déjà, d'une, améliore la performance du jeu, comme n'importe quel patch, qui, par exemple, alors, on va me dire que oui, il y avait des patchs amateurs, qui faisait ça, qui par exemple ajoutait des textures plus récentes, etc. Certes, mais aucun patch jusqu'à maintenant n'avait, par exemple, comment dire, amélioré le framerate du jeu, Là, je vous assure, il y a des putains d'améliorations au niveau du framerate. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait un souci avec le framerate du jeu, c'est que s'il y avait un souci avec le framerate du jeu, c'est parce que, en fait, le moteur n'était pas du tout adapté aux cartes graphiques d'aujourd'hui. Et en fait, comme apparemment les mecs qui ont fait ce patch ont accès au code source, en tout cas c'est clair que les mecs c'est des programmeurs, c'est des grosses pointures. En gros, ils ont carrément modifié le moteur du jeu pour qu'il soit adapté aux cartes graphiques d'aujourd'hui. Et aussi, par exemple, les cinématiques qu'il y avait dans le jeu, il y avait des soucis de codec vidéo, par exemple, parce que c'était des codecs assez anciens qui marchaient pas avec les cartes graphiques d'aujourd'hui. Et ça, par exemple, ils ont carrément changé les codecs vidéo pour que les cinématiques marchent. Et aussi, par exemple, il y avait un souci au niveau de l'interface avec la souris, tu pouvais pas utiliser la roulette de la souris, par exemple. Ou alors il fallait faire un truc vachement compliqué, ou il fallait aller dans le fichier ini du jeu pour modifier une ligne de code. Enfin, c'était très casse-couille. Là, le patch, il corrige ça d'office. Bref, c'est un patch vraiment qui apporte énormément de choses. Il y a aussi des ajouts au niveau de la lumière. Bref, comme je le dis, c'est pas juste un simple patch, c'est un patch qui a fait un bond de 10 ans en avant au moteur. Et en plus, ce qui est le plus beau, c'est que il a ajouté aussi des outils pour les modeurs. Et les modeurs, là, je vous le dis, les modeurs de ces deux jeux, mais ils sont fous là. C'est Noël pour eux là. Il y a plein de projets qui étaient morts, par exemple, qui ont été réactivés parce que maintenant le moteur a été tellement amélioré que ils savent que ils vont pouvoir le faire quoi. Et ça c'est juste les jeux ils revivent là. C'est extraordinaire. Et petite précision sur les l'histoire de cet anonyme donc qui a posté ce fameux patch. Il faut savoir que il y avait eu un leak du moteur, le code source du moteur avait été leaké en fait, mais ça avait été rapidement supprimé par l'éditeur. Et ce qui s'est passé, on pense qu'en fait ce sont des gens qui ont réussi quand même à faire une copie de ce leak du code source du moteur et qui ont posté anonymement ce patch parce qu'en fait ils n'ont pas le droit de le faire ça. Et c'est ça le plus con dans cette histoire en fait, c'est que finalement, on peut pas remercier directement les personnes qui ont fait ce fabuleux patch parce que en fait ils sont dans l'illégalité. C'est le paradoxe de la situation, si tu veux. Ils ont amélioré le jeu, ils ont remis le jeu au goût du jour et on peut pas les remercier parce que bon, malheureusement, pour des raisons de droit totalement débiles, ils sont obligés de faire ça anonymement parce que c'est illégal.
Bah, au nom des joueurs PC, nous te remercions, cher inconnu, si tu passes par là. Merci à toi.
Cher Corbeau, parce que c'est le pseudo qu'il a adopté, Monsieur Corbeau, merci beaucoup. Ensuite, on va parler de Plenty of Games, justement.
Et de
Alors, on
PC.
a une rumeur cette semaine assez surprenante.
C'est pas une rumeur, c'est des dires.
Ouais, enfin, disons que Platinum Games envisage de venir sur PC et accessoirement de faire un Kickstarter. Alors moi, là, tout de suite,
Ah oui, non,
wouhou!
oui, pour le Kickstarter, ça, c'est plus à l'état de rumeur, c'est vrai. Mais
Ouais.
moi, ce que je sais, c'est que, ouais, le directeur exclusif de Platinum Games, qui s'appelle Atsushi Inaba, il a déclaré que, il aimerait vraiment se mettre au marché du PC pour être plus indépendant et qui considérait que le marché PC est vraiment comme un marché porteur et que, surtout, qu'il fallait pas l'oublier, contrairement à ses confrères japonais. On a très peu de développeurs japonais qui se mettent sur PC. Et vu la qualité des jeux Platinum Games, ça serait vraiment. Moi, j'aime beaucoup ce studio parce qu'ils font des petites pépites. Et malheureusement, les ventes s'en ressentent pas trop, mais.
Je crois qu'il y a eu des gros soucis sur Borderlands 2 récemment. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Plus particulièrement, c'est un bug donc qui est sur Borderlands 2. Le niveau de brutasse des joueurs est remis à zéro, arrivé à un certain niveau. Donc même si vous avez accompli des quêtes qui sont liées, elles restent débloquées, mais vous ne pourrez plus utiliser vos différents bonus Et donc, vu que c'est remis à zéro, c'est un peu embêtant parce que,
En gros,
voilà, quoi.
c'est tes caracs qui sont les caracs de ton personnage qui sont remis à zéro, si j'ai bien compris.
Non, c'est pas toutes les caractéristiques, c'est juste leur niveau de brutasse. Il y a que celui-là qui est remis à zéro, en fait, et les
Oui,
autres, ils
c'est
sont...
déjà pas mal, tu me diras.
Voilà, donc, ça fait que, par exemple, si t'es, je sais pas, si t'es arrivé le level 50 dans ce niveau-là, t'as un niveau de brutasse 50, tu joues, tu rallumes ta console le lendemain, tu vois, tu t'es revenu à zéro, t'as pas compris pourquoi.
Et c'est un bug que tu peux éviter ou
Bah pour le moment, on sait pas comment le bug est déclenché. On n'a pas plus d'informations en fait pour savoir si il y a moyen de l'éviter ou pas. Mais pour l'instant, voilà, ça fait un peu tâche. Donc on espère qu'ils vont faire un patch assez rapidement. Surtout qu'il y a eu de nombreux joueurs qui ont eu ce bug-là.
D'ailleurs, j'en profite pour annoncer, a priori, ATH vous parlera de Borderlands 2, enfin, on ne sait pas ce mois-ci, mais en tout cas, il devrait pouvoir vous en parler, vu qu'il recevra bientôt le jeu, n'est-ce pas, ATH?
Ça sera un test en bonne et due forme et je vous en reparlerai plus tard. Et si j'ai eu ce petit problème-là, il y aura mon coup de gueule.
Ouais. Ok. Bon, alors, Miyamoto sur un projet fantastique. Oui, super, merci Reggie. Est-ce que c'est vraiment fantastique ou c'est juste une phrase de com comme ça
Alors donc, bah c'est Régis Fils-Aimé, comme tu l'as dit, le patron actuellement de la branche USA de Nintendo, qui a dit que Monsieur Shigeru Miyamoto serait en train de travailler sur un fantastique projet pour la Wii U qui ne serait pas du Mario, du Zelda ou du Pikmin. Mais le problème, c'est que voilà, bon, cette phrase-là, c'est sûr que c'est une phrase très marketing, surtout de la part de Régis Fils-Aimé. Mais s'ils vont nous faire une nouvelle licence qui va marcher, est-ce qu'ils vont l'épuiser jusqu'à la moelle comme le pauvre Mario pendant 15 ans, ils vont nous le sortir?
Est-ce qu'on va enfin avoir une nouvelle licence de la part de Nintendo? Bon, j'exagère un peu quand même. C'est vrai qu'ils ont racheté certains studios, notamment ceux qui ont fait les Xenosaga, Monolith, qui ont fait des nouvelles licences pour Nintendo. Reconnaissons-le, ça leur arrive de faire des nouvelles licences. Mais quand même, est-ce qu'on va enfin avoir un Miyamoto qui va bosser sur un nouveau projet? Parce que la dernière nouvelle licence Made in Miyamoto, arrête-moi si je me trompe, a priori c'est Pikmin.
Non, faux, 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 faux. Si je te dis ce que c'est la dernière, Miyamoto a fait peur, hein. C'est Wii Music.
Ah oui, c'est vrai, excuse-moi.
Ah oui, tu l'avais enlevé ta tête, oui, tu ne
J'avais
considères pas ça
oublié.
comme un jeu, moi non plus.
Donc oui bon bah, effectivement bon disons que la dernière licence gamer Miyamoto c'est a priori c'est
Bah, tu
Pikmin
peux dire de la dernière licence tout court, hein.
donc ça remonte à loin quand même bon on espère en tout cas que ce sera enfin du neuf et on croise les doigts.
Surtout, moi, j'espère que ce sera pas un torchon comme ça peut être, comme a pu être Wii Music, etc. Parce que voilà, enfin, un torchon. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment. Enfin, perso, moi, c'est pas ma came. J'espère que ce sera un gros jeu. Ce sera pas un truc, voilà, pour les casuals. Et il y a aussi un autre truc sur à savoir, c'est que le studio, enfin le Retro Studio, qui a fait donc Donkey Kong Return, c'est Metroid Prime. Travaille aussi sur un gros jeu sur la Wii U et donc on attend de savoir ce que c'est parce que c'est un studio qui a vraiment du talent.
Ouais, en plus, je précise que c'est eux qui avaient fait la démo de Zelda qu'on avait vue à l'E3 là,
Voilà, c'est oui c'est eux
et
ça.
c'était vachement beau. Hein, donc.
Moi ça m'était ça va ça il, le jeu il est franchement quand j'ai vu ça j'ai dit quoi et s'il me sort un Zelda comme ça je l'achète direct la Wii U. Mais enfin, en tout cas, je suis content que pour Miyamoto, s'il arrive à nous faire une autre licence gamer, peut-être plus adulte maintenant, tu vois, parce qu'on a vieilli avec Nintendo quand même, et on aimerait bien voir des trucs un peu moins mignons, quoi.
Ou même pas forcément mignon, mais un peu moins déjà vu, quoi, on va dire.
Ouais, bah, enfin, parce que moi, je te dis mi moins mignon parce que voilà, Mario, tout ça, c'est bien. Franchement, c'est des jeux qui ont un bon gameplay. Mais on les a revus, donc c'est pour ça que j'aimerais bien voir Miyamoto ce qu'il est capable de faire dans un univers un peu moins enfantin, si enfin mais en même temps c'est Nintendo donc ça m'étonnerait.
Ouais. Bon, allez, on passe à l'ennemi. Maintenant, on va parler de Microsoft avec les succès 360 qui sont maintenant récompensés. Alors moi, j'avoue, j'ai vu la news là, j'ai fait
Mais non, il fallait pas regarder,
ouais,
je t'ai dit.
c'est quoi ce truc?
Tu devais pas la regarder cette news. Donc
Non.
comme tu l'as dit, c'est les succès 360 qui sont récompensés maintenant grâce au programme Xbox Live Reward. Donc si vous avez un Gamerscore compris entre 3000 et 9999, vous aurez un cadeau spécial durant le mois de votre anniversaire. Cadeau spécial, ça veut tout dire. Ça peut être un t-shirt pour votre avatar, comme une casquette ou un bon.
Ouais,
Un bon.
j'ai envie de dire, il se mouille pas trop. Hein,
Voilà, donc moi, le cadeau spécial, il me fait un peu flipper.
Pour un pins.
Après, ça fait, vous inquiétez pas, ça va être encore plus marrant. Entre 10 000 et 24 000. 900 points, 999 points de Game Score, vous aurez un cadeau spécial toujours le mois de votre anniversaire. Plus, attention, 1% de réduction sur les achats Xbox Live Marketplace.
1%. Wouh. Ah, c'est la fête. Hein.
Et encore mieux, à 20, si vous dépassez les 25 000, vous aurez toujours le cadeau spécial durant le mois de votre anniversaire. Mais, cette fois-ci, vous n'aurez pas 1%. Pas 0%, mais 2%. Donc, arrêtez de nous prendre pour des cons, Microsoft, et donnez-nous des jeux à la place.
Mais de quoi tu te plains? Bientôt, grâce à Microsoft, tu vas pouvoir t'offrir un café, c'est cool.
Ouais. Cool.
Bon, allez, c'est tout pour l'actualité cette semaine.
T'as pas envie
de... On va passer à des choses un peu plus sérieuses, n'est-ce pas?
T'as pas envie de cracher dessus, toi.
Et on va passer au jeu du moment. Et le jeu du moment, c'est Faster Than Light. Faster Than Light, c'est un jeu indépendant, c'est un jeu où vous allez souffrir et c'est un jeu où vous allez mourir. Ça y est, j'ai fait le petit jeu, au revoir.
Faster Than Light, tu pouvais pas faire plus rapide.
Ouais, voilà. Alors, non, sérieusement, pour vous présenter un peu le concept, en gros, vous jouez un vaisseau où vous allez devoir gérer les armes, les membres d'équipage. On vous confie une mission secrète. Vous avez reçu les plans d'un vaisseau ennemi, le vaisseau principal de la flotte des rebelles, en fait. Et c'est un vaisseau qui est très puissant, apparemment. Et du coup, votre mission, si vous l'acceptez, ça va être de traverser l'univers et d'aller prévenir de la flotte de la Fédération qui s'est regroupée pour arrêter l'avancée des rebelles. Et Faster Than Light, c'est ça. En gros, c'est un jeu où votre vaisseau saute de système en système, poursuivi par la flotte des rebelles, donc ça veut dire que vous pouvez pas trop vous attarder dans un système, et ben vous allez devoir survivre. En gros, ce jeu c'est ce qu'on appelle un roguelike. Je sais pas si tu connais le genre ATH, des roguelikes.
Pas du tout.
Pour vous donner un exemple, il y a eu un autre jeu, comme ça, qui est arrivé très récemment, enfin, récemment, l'année dernière, c'est The Binding of Isaac.
Ah, ça, je vois ce que c'est.
Ce qui va se passer, donc, c'est que vous allez arriver sur une carte, en forme de losange. Et en fait, dans ce losange, il y a des embranchements en forme d'arborescence. Vous allez devoir choisir le système dans lequel votre vaisseau va sauter. Et donc, ben, votre but, c'est avancer et survivre. À chaque saut, vous allez vous retrouver sur une nouvelle planète. Et là, ce qui va se passer, c'est que il y a du texte qui va apparaître. Et dans ce texte, on va vous dire ce qui se passe. Alors, par exemple, ça peut être... Alors, sur cette planète, vous avez trouvé un mec qui était là. Est-ce que vous le ramenez sur le vaisseau ou est-ce que vous le laissez là?
Bah, je
Et comme c'est un jeu qui est où les événements sont générés aléatoirement, selon votre choix, si ça se trouve, le mec, en fait, c'est un gros taré qui va bousiller votre vaisseau et qui va bousiller votre coque, en fait. Ou alors, si ça se trouve, c'est un mec qui est parfaitement sain, il va venir et il va devenir un nouveau membre d'équipage.
Mais est-ce qu'on peut le savoir, est-ce qu'il y a un moyen de savoir avant que tu me prennes comme...
Non, tu peux pas savoir, mais c'est ça qui est bien.
Non, mais il y a pas, y a, peut-être que, je sais pas si, tu vois, il y a rien, tu pourras jamais le savoir avant, il y a pas des indices, au
non,
moins.
Non, non, tu peux pas savoir. C'est ça l'intérêt des roguelikes. L'intérêt, c'est qu'il y a une part de hasard dans le jeu, et à chaque fois que tu vas faire un choix, tu vas être, mais angoissé à mort, parce que, en fait, ça va arriver souvent dans ce jeu que tu sois à court de ressources, que ton vaisseau soit dans vraiment un sale état. Et en fait, il y a plein de situations à chaque fois où tu vas dire, bon, alors, est-ce que je la joue safe et je fais comme si j'avais rien vu, tu vois, je me casse. Mais sachant que si tu joues comme ça, tu prends le risque de passer à côté de choses intéressantes pour ton vaisseau qui te seront vachement utiles sur le long terme. Et ça, Faster Than Light, je vous le dis tout de suite, c'est un jeu qu'il faut prévoir sur le long terme. C'est pas un jeu court-termiste. Si vraiment tu joues le jeu en disant, bon, je vais pas trop mouiller, etc., il y a forcément un moment donné, comme la difficulté augmente, plus tu avances sur la carte et plus la difficulté augmente, en fait, et à un moment donné, tu vas arriver à un point où tu vas te retrouver, tu vas être là, tu vas dire, alors, mes boucliers sont pas assez puissants, mes armes sont pas assez puissantes, en gros, je vais me faire one-shotter par les vaisseaux qui sont en coin, quoi.
Mais, par exemple, si le gros taré vient dans ton vaisseau, il y a moyen de le foutre dehors, ou bien, tu...
Non, non, mais c'est ça, c'est, en gros, soit tu choisis de le laisser là, soit tu le fais venir, et s'il s'avère que c'est un gros taré.
Ouais.
Ben, y a pas moyen d'éviter, tu vas, bon, ils vont le foutre dehors, évidemment, hein, à la fin, mais le mec aura fait des dégâts dans ton vaisseau, quoi.
Mais quand il mettra beaucoup de temps à le foutre dehors, ou bien?
Non, mais c'est sur le coup, en fait. C'est, en gros, c'est comme un leak dont vous êtes le héros. C'est, on te présente un choix, tu fais un choix, on dit ce qui se passe. Là, en l'occurrence, t'as foutu le mec dehors, mais il a bousillé ton vaisseau. Voilà. C'est le résultat. C'est instantané, quoi. Ensuite, pour vous présenter un peu le système de combat de jeu qui est vachement bien. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un jeu, vous allez commencer, vous allez être là. Vous allez pas comprendre grand chose, en fait. Parce que, en gros, vous avez une vue du dessus sur votre vaisseau. Et en fait, vous avez le plan du vaisseau et vous voyez des petits bonhommes. Et ces petits bonhommes-là, c'est votre équipage. Et ce qu'il va falloir faire, c'est affecter vos membres d'équipage à des postes. Par exemple, si tu mets un mec au pilotage, ça va augmenter l'esquive de ton vaisseau. Si tu mets un type sur les armes de ton vaisseau, eh bien, ton vaisseau visera mieux. Si tu mets un mec sur ton moteur, le moteur qui permet, parce que il faut savoir que le moteur permet de faire les sauts entre les systèmes, et en fait quand t'arrives sur un combat, tu peux pas sauter tout de suite, en fait tu peux pas fuir tout de suite, il y a une jauge qui se recharge, et en fait si ton mec est sur le moteur, la jauge se rechargera plus vite.
Excuse-moi, les combats, ça se passe comment? Ça se passe comme un shoot'em up? Parce que j'ai regardé une vidéo de ce jeu. Mais j'ai vu que l'aspect quand t'es sur le vaisseau là où t'as dit où tu comprends rien du tout, c'est vrai que j'ai rien compris.
Alors, en gros, donc, comme je le disais, donc tu as une vue de ton vaisseau.
Ouais, ça j'ai vu.
Alors, des fois tu pourras éviter les combats, des fois tu pourras pas, et quand tu ne pourras pas les éviter, ton écran va se diviser en deux, en fait, et d'un côté, donc tu auras toujours le plan de ton vaisseau, et de l'autre, tu auras le plan du vaisseau adversaire, en fait. Sauf que là. Sauf si t'as l'équipement approprié, tu verras juste le plan des salles du vaisseau. Alors là, en gros, t'as la salle des moteurs, là, t'as la cabine de pilotage, etc. En fait, c'est un jeu où tu peux, un peu comme certains RPG d'antan sur PC, tu vas pouvoir faire une pause en tapant sur la barre espace. Donc en gros, c'est du semi-temps réel, si tu veux. C'est-à-dire que pendant que tu attends, la jauge des armes de ton vaisseau va se recharger, et à tout moment, tu peux faire pause avec la barre espace. Et pendant ce temps-là, donc le temps est figé, et tu vas pouvoir dire, alors, mon canon laser droit, tu vises telle salle du vaisseau. Mon canon laser gauche, tu vises telle autre salle du vaisseau. Et pendant ce temps, je déploie mes drones de défense pour qu'ils bloquent les missiles, en fait. Tu vois? Et là, clac, tu mets fin à la pause, t'as ton laser qui tire, tout se met en marche, quoi. Et le truc, c'est que plus tes armes sont puissantes, en fait, plus, après chaque tir, elles vont mettre du temps à se recharger. Pendant ce temps-là, t'imagines bien que ton adversaire, il est pas inactif.
Il te regarde pas.
Lui aussi, il dit à ses canons de laser te tirer dessus, tu vois. Ce qui fait la richesse de jeu, en fait, c'est que pendant les combats, tu as, mais des tonnes de tactiques à appliquer, quoi. Par exemple, il y a une autre possibilité dans le jeu, au lieu de tirer bêtement avec tes lasers, c'est d'avoir un téléporteur à l'intérieur de ton vaisseau et de mettre des membres d'équipage dedans et de les envoyer directement à l'abordage du vaisseau adverse. Et ce qui va se passer à ce moment-là, évidemment, donc toi, pendant ton vaisseau se défend, toi, tu vas switcher sur le plan du vaisseau adversaire et un peu comme dans un jeu stratégique, quoi, finalement. Tu vas gérer ton unité d'infiltration dans le vaisseau et tu vas les faire attaquer le vaisseau, quoi. Et ce qui est vachement intéressant, par exemple, moi j'adore les abordages, hein, je vous le dis, moi c'est ma méthode de combat préférée. Ce qui est absolument génial, c'est que ben le truc, c'est que pendant ce temps-là, d'une, l'adversaire, il arrête pas de te tirer dessus, hein, ça continue. Le combat entre les vaisseaux continue, donc il va falloir gérer cet aspect-là en même temps. D'où l'intérêt de la pause, parce que des fois je peux te dire qu'il se passe tellement de choses que hop, tu fais, oh putain, là, je suis plus là, hop, il faut que je fasse pause, faut que je fasse le point un peu de ce qui se fait à l'écran. Donc déjà, vous inquiétez pas à ce niveau-là, c'est un jeu qui est très bien conçu, même si ça a l'air un peu confus au début, en fait, il est tellement bien conçu qu'au bout d'un moment donné, je vous assure que vous allez maîtriser. Ensuite, non seulement les vaisseaux continuent à se combattre, mais ton vaisseau à toi, s'il veut avoir une chance de survivre, faut qu'il supporte un peu les troupes qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que tu lances une bombe incendiaire sur le vaisseau adverse. Il y a ça. C'est une tactique que j'aime beaucoup, ça. Faire cramer les gens à l'intérieur du vaisseau, c'est génial.
C'est génial de faire cramer les gens.
Ouais. Et imaginons que tu lances une bombe incendiaire. On est d'accord que si tu lances une bombe incendiaire, il vaut mieux viser la salle qui est à l'autre bout du vaisseau par rapport à là où sont tes mecs. Comme ça, toi, tes mecs, tranquillement, ils pourront aller détruire des salles, etc. Parce que les autres, ils sont occupés à éteindre le feu, quoi, par exemple.
Mais genre, quand t'envoies les mecs, t'envoies qui? T'envoies le cuisinier, tout ça?
En gros, si tu veux, il y a un système d'expérience comme dans un RPG, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, plus ton personnage va faire une action, plus il va être fort dans cette action. Et c'est pareil pour les combats. Au départ, tes mecs, ils sont pas très forts. Et plus ils vont combattre, et plus ils vont venir forts.
Non, mais par exemple, les mecs, c'est des mercenaires, ou bien c'est le mec qui fait le bouclier, tu peux l'envoyer casser la gueule aux autres,
si tu veux. Tu peux l'envoyer casser la gueule aux autres, mais comme il aura jamais combattu, tu te doutes bien que s'il tombe face à un combattant en face, il va prendre cher, quoi.
Non, mais après, par exemple, si dès le début, tu le fais, il s'occupe des boucliers, et après, dès qu'il y a un combat, tu l'envoies. Après, il sera fort dans les deux, quoi.
Oui, mais le truc, c'est que... comment dire?
S'il meurt, il meurt.
Ça va dépendre de ce qui va se passer pendant ta partie. Par exemple, si tu tombes sur beaucoup de vaisseaux qui utilisent la tactique de l'abordage, ah, effectivement, oui, c'est sûr, au bout d'un moment, tes membres d'équipage, ils vont gérer le combat. Ils seront se défendre tout seuls, ils ont besoin d'aucun spécialiste, ils seront déjà spécialistes, si tu veux. Mais le truc, c'est que tous les vaisseaux n'utilisent pas cette tactique-là, et donc ils sont pas forcément forts, tu vois. Ils sont peut-être vachement faibles. Et du coup, c'est peut-être plus avantageux, tu vois, d'avoir des membres d'équipage qui sont spécialisés dans l'abordage, qui, quoi qu'il arrive, à chaque assaut, iront au front, et qui seront vachement balèzes, quoi.
Il y a un côté scénario dans le jeu ou pas?
Non, c'est très minimaliste, et en gros, tu as le plan du faisceau secret des rebelles, il faut que tu ailles prévenir la flotte de la Fédération, et t'as des rebelles au cul. C'est ça, l'histoire.
Mais le jeu se termine, il y a bien une fin, quoi.
Oui, il y a une fin. La fin, c'est quand t'arrives au bout de la map,
ouais,
et que tu affrontes le fameux vaisseau secret. Et alors, maintenant, les défauts du jeu. Je vais quand même en parler parce que Là, ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est que du compliment pour moi. C'est un jeu qui est riche, qui est complet, etc. C'est un jeu vraiment excellent. Le problème, c'est que j'ai envie de dire, l'un des défauts de ce jeu, je pense, c'est que trop de hasard tue le hasard. C'est-à-dire que des fois, par exemple, ça m'arrivait au début de partie, mais genre, premier saut dans un autre système, je tombe sur un espèce de vaisseau de grosse brutasse avec un bouclier, parce que en fait il y a plusieurs types de boucliers, il faut savoir dans ce jeu, enfin il y a deux types de boucliers, il y a le bouclier classique et il y a un bouclier qui en gros bloque n'importe quel tir. Et je tombe sur un bouclier comme ça déjà dès le début du jeu, et en plus il a des armes de grosse brutasse quoi, et en gros je me suis fait limite one shoté la serpillière quoi, tu vois.
Bah, si il a des armes de grosse brutasse, fallait le faire jouer à Borderlands 2. Il chope le bug.
et ça, tu vois, c'est quand même vachement pénible, quoi. Il y a pas, je trouve que le jeu est quand même, même s'il y a une notion de progressivité dans ce jeu-là, ça arrive régulièrement que dès le début du jeu, tu tombes sur des trucs que tu fais, mais attends, c'est juste pas possible, quoi.
Ah, comment, parce que si j'ai bien compris, le niveau des ennemis, il est aussi aléatoire, donc.
Non, enfin.
Enfin, si tu tombes sur des mecs qui sont des grosses brutasses dès le début, c'est-à-dire qu'ils ont déjà du stock de malades, ça veut dire, par rapport à toi.
Par rapport à ça m'est arrivé, mais le truc c'est que je comprends pas, je me demande si c'est pas un bug en fait, parce que en fait il y a vraiment une progressivité normalement dans ce jeu, mais ça arrive des fois, je sais pas pourquoi ça m'est arrivé de tomber au début du jeu avec un mec avec un super bouclier avec beaucoup plus d'armes que moi, enfin j'ai fait pas des armes extraordinaires non plus, hein, des armes de base.
Ouais.
Mais si tu veux, quand t'as beaucoup d'armes de base, à un moment donné, ça fait beaucoup quoi. Et parce que faut bien avoir conscience que le début du jeu, t'as un seul plan de vaisseau, parce que en fait c'est un jeu où tu vas avoir aussi le choix des plans de vaisseau. T'as plusieurs types de vaisseaux. Et au début, la première partie que tu fais, t'as un seul plan de vaisseau, et il est pas forcément génial non plus, quoi. En gros, le premier vaisseau, bon, tous les vaisseaux, il y a un bouclier, hein, je précise, mais en gros, t'as un laser, un missile, et démerde-toi, quoi. et le truc, c'est que, en face, si t'as un mec, pour peu qu'il ait, par exemple, une tourelle de défense qui bloque les missiles, ben, tu l'as dans l'os, quoi, parce que toi, les seules armes que t'as, c'est un missile et un laser. Donc comme il a un bouclier, bah ton laser il passe pas, et il a une tourelle de défense, et ton missile il passe pas non plus. Super.
Bah il faut tenter l'abordage alors.
Non mais le truc c'est que ça tu l'as pas au début.
Ah d'accord.
Et enfin ça dépend du vaisseau que tu prends. Parce qu'il y a deux plans de vaisseau que tu débloques plus tard où t'as le système d'abordage qui est intégré, mais t'as des trucs en moins.
Ouais.
Et ce qui est génial dans le jeu, tu vois, c'est que en fait, tu sens la progression de ton vaisseau. Quand tu chopes un nouvel équipement, par exemple, je sais pas moi, tu chopes un second laser qui fout le feu, par exemple, parce qu'il y a des lasers un peu comme ça, si tu veux, c'est quand il perce les boucliers en face et qu'il touche une salle, ça fout le feu. Et ça, j'adore ça. Et quand t'as une nouvelle arme, tu sens la progression, quoi. Parce que elle ajoute vraiment quelque chose au gameplay. Et en plus, elle ajoute de la puissance de feu, quoi. Et ça, c'est génial. Et c'est vraiment un jeu, en fait, où franchement, quand tu le termines, tu sens que, voilà. Ah ouais, je suis arrivé jusque-là. Franchement, là, je sens que mon vaisseau, il est balèze, quoi.
Donc, t'es content.
Voilà. des questions peut-être?
Bah non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Enfin, niveau durée de vie, ouais, peut-être. Il y a long, pas long?
Infini.
Infini.
alors, autre précision, c'est un jeu qui est très très dur. Je pense qu'un jour, je pourrais dire fièrement à mes petits-enfants, j'ai terminé Fast and Planet en normal. Alors, parce que je précise, hein, jouez en facile. Hein. Ne jouez surtout pas en normal.
Ah, okay.
Mais parce que en normal, vous allez vous faire... votre fierté va en prendre un coup, je pense. Hein.
Et il y a un mode au-dessus de normal?
J'en ai pas vu. Mais s'il y en avait un, j'y toucherais pas, personnellement. Je suis pas fou. Hein. C'est ce jeu est dur, mais dur. Mais dur quand t'en as pas l'imagination, quoi. C'est le mode normal, c'est le mode very very hard des jeux actuels, quoi. C'est
Donc, si vous avez des coronets, c'est
parce
le jeu
que
normal.
et aussi précision, le mode easy, c'est pas que les adversaires sont moins balèzes, hein. C'est juste que vous gagnez plus de ressources. Parce que il faut bien voir que dans ce jeu, en fait, il y a les ressources du jeu. En fait, c'est tu récupères les débris des vaisseaux adverses, et c'est ça les ressources du jeu. Et le truc, c'est que en mode normal, tu récupères moins de ressources. Et donc, comme tu récupères moins de ressources, tu peux acheter moins d'armes. T'as moins de pognon à dépenser, si tu veux.
Ah, je vois, c'est un peu le même concept que les Japonais ils ont fait là-bas, parce qu'ils ont fait un ils ont mis dans les RPG, ils ont mis un mode easy là-bas, mais c'est un mode easy qui la difficulté reste à peu près la même, mais ils ont fait ce mode-là pour les ceux qui travaillent, qui n'ont pas beaucoup de temps pour jouer aux jeux vidéo. Ils ont mis un mode easy. En fait, tu gagnes juste plus d'expérience et plus d'objets, tout ça, à la fin de chaque combat. Comme ça te permet de, même si tu travailles tout ça, bah tu passes moins de temps sur le jeu vidéo, quoi. En fait, tu passes un peu moins de temps sur le jeu, tu vois, et donc t'auras le temps de le terminer, et ça sera un peu plus facile vu que tu gagnes d'expérience, tu vas monter plus vite en level, et donc les monstres qui seront normal, t'auras un peu de mal à les taper, bah là, comme ce sera t'auras gagné un peu plus d'expérience, bah tu pourras les one shot, quoi.
Ouais. Et le truc, c'est que je vais pas préciser, mais la gestion des ressources, c'est vachement important dans le vaisseau. C'est pour ça que le jeu devient beaucoup plus facile quand t'as énormément de ressources. Parce que du coup, le truc, c'est que à chaque fois tu tombes sur parce qu'il y a des magasins dans le jeu. Et en fait, quand tu tombes sur un magasin, t'as toujours le choix cornélien de te dire, alors, est-ce que je répare mon vaisseau? Mais ça, c'est un investissement court terme. Ou est-ce que j'achète de l'équipement? Parce que en gros, la monnaie, en gros, c'est d'XP, quoi, en fait. C'est
Et
ce qui permet de...
tu peux pas acheter des sandwichs pour les membres de l'équipage. Non, ils mangent pas.
Non. Non. Et en gros, la monnaie dans ce jeu-là, c'est l'expérience, en fait. Parce que c'est ce qui permet vraiment... Au final, c'est ça qui permet de faire évoluer ton vaisseau. Et acheter un équipement, c'est un investissement long terme. Mais le problème, c'est que si tu fais un investissement long terme, est-ce que t'es pas sûr que... Parce que déjà, quand tu fais un investissement long terme, ton équipement, c'est pas sûr que tu vas pouvoir l'utiliser tout de suite. Parce que le problème, c'est que dans ce jeu, c'est que y a la gestion de l'énergie. Parce que ton vaisseau, il a pas de l'énergie infinie non plus, quoi. Chaque équipement consomme un certain montant d'énergie, en fait. Et à tout moment, en fait, tu vas pouvoir désactiver certaines parties de ton vaisseau pour dériver l'énergie vers d'autres parties, en fait. Et le truc, c'est que des fois, tu te retrouves face à une situation où tu tombes sur une arme vachement puissante, par exemple, mais tu vas pas pouvoir l'utiliser tout de suite parce que ton vaisseau n'a pas assez d'énergie. Alors tu te dis, alors est-ce que je prends cette arme sachant que je ne vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite? Ou est-ce que je répare mon vaisseau? Ou est-ce que je dépense mon argent, par exemple, pour acheter du carburant? Parce que ton vaisseau, il avance pas tout seul, hein, faut acheter du carburant aussi. Ou alors, est-ce que je dépense mon argent pour acheter des missiles? Mais c'est une ressource consommable et j'en ai pas à l'infini. Est-ce que je dépense mon argent pour acheter des drones de défense? Et ça aussi, c'est une ressource consommable, donc c'est aussi du court terme. Et voilà, c'est assez compliqué à gérer, en fait. Il y a un équilibre à trouver, parce que des fois, tu vas investir dans une super bonne arme, mais comme tu vas pas pouvoir l'utiliser tout de suite, ben ça se trouve au prochain saut que tu vas faire, ben, tu vas tomber sur un vaisseau vachement balèze, et que si t'avais eu quelques barres de vie en plus, t'aurais pu le buter, mais là t'as pas pu parce que t'as pas fait de réparation à ta dernière escale, quoi.
D'accord, donc un aspect gestion survival très intéressant dans le jeu, et toi qui te plaît particulièrement dans ce type de jeu. Mais
Ouais.
donc voilà, est-ce que tu as encore un truc à ajouter avant de passer au point culture? Parce que là, il te reste un peu moins de 10 minutes pour faire le point culture.
Juste un dernier reproche, peut-être le manque de variété des situations. Au bout d'un moment, c'est assez redondant quand même, hein. Mais bon, je veux dire, la redondance, On s'en fout parce que ce jeu, moi j'y ai, bon, j'ai fini par me lasser un peu là, mais j'y ai quand même passé une vingtaine d'heures. Vingtaine d'heures, je crois qu'il coûte une dizaine d'euros. Franchement, c'est pas beaucoup. Voilà.
Donc
Franchement,
le ratio
si vous
est
aimez la gestion, si vous aimez le challenge, parce que c'est un jeu qui offre vraiment du challenge, franchement, c'est un jeu qui vaut vachement le coup. Et une dernière chose, je précise que ce jeu, c'est un des premiers projets Kickstarter qui est arrivé, là. C'est un des tout premiers projets Kickstarter qui aboutit. Et franchement, si les autres jeux sont de ce niveau-là, Kickstarter a de l'avenir.
Et voilà. Donc,
Vraiment.
le tyran, quand il est parti, on ne l'arrête plus.
Voilà, vraiment un bon jeu.
Tout a une fin. Telle est la ligne. Toutes les nuits, ce même rêve. Ce même cauchemar qui me réveille en pleine nuit et me donne l'impression d'avoir dormi sous un soleil de plomb. Le corps en sueur, le maillot trempé, cette lumière azur qui passe au travers des persiennes de mon appartement. Je me suis levée lentement, le regard dans le vague. Fallait que je recouvre mes esprits et que je retrouve mes repères. Que j'oublie ce foutu cauchemar. Je me suis approchée de la fenêtre, les pieds nus sur une moquette douce et molle. Bon Dieu, j'avais une moquette douce et molle. Putain de cauchemar. Persienne. La lumière de la ville s'engouffra dans ma chambre, arpentant les plinthes, grimpant sur les murs. Cette lumière bleue, étrange, la lumière du Paris noctambule. Télé.
Les émeutes étudiantes ont embrasé le centre-ville de Paris, tout comme à Madrid, Berlin, Londres et Rome. Le même slogan résonne dans les plus grandes villes européennes. Depuis quelque temps déjà, les étudiants européens s'insurgent contre ce qu'ils appellent l'éducation prédestinée. Au Parlement de Genève, la classe politique refuse pour le moment d'instaurer tout dialogue avec ce qu'ils jugent une révolte déjà avortée.
Le monde ne tourne pas rond. Il se penche légèrement, prêt à se casser la gueule. Un monde gouverné par un seul et même pouvoir dont l'unique but est d'uniformiser le tout. Plus de pays pauvres comme au XXIe siècle, plus de guerres de religion, plus de choix individuels. Plus de malheur, mais plus trop de bonheur non plus peut-être. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Avec ma moquette douce et molle, mes fichus cauchemars et un passé à rafistoler au scotch double face. Ah, Mara. Qu'est-ce que je fous au milieu de ceux qui uniformisent et ceux qui veulent se diversifier? Je passe la tête par la fenêtre. Il pleut encore. Ça arrête jamais de pleuvoir ici. Je vais rentrer la tête pour tourner mon regard vers la télé.
Ce que je cherche juste, c'est un peu d'amour, moi. Oui, moi aussi. Alors, si on s'aimait tous les deux...
Télé off. Pas moyen de retrouver le sommeil. Rien de bien à la télé. Il me reste plus qu'une seule chose à faire.
Et donc, je vais maintenant vous parler d'une saga MP3, un peu comme la saga MP3 dont je vous avais parlé il y a quelque temps, n'est-ce pas? C'est aussi une saga sérieuse, et cette saga, ça s'appelle La Ligne. L'histoire de La Ligne vous plonge dans un futur lointain, à Paris. Il vous plonge aux côtés d'une femme qui s'appelle Mara Ibanez, et tu sens qu'elle a un passé assez lourd, quoi. Elle est, c'est une femme mélancolique, un peu désabusée. En plus, la société où elle vit, franchement, elle donne pas envie, quoi. C'est une société, en gros, où ils ont inventé un système. Ça s'appelle la prédestination. Ça veut dire qu'en gros, à ta naissance, il y a une espèce de test qui est effectué, et en fonction des résultats de ce test, on dit, toi, quand tu seras grand, tu seras ingénieur. Toi, tu seras policier. Toi,
Un
tu
peu
seras
comme
machin.
dans les dans Fallout. Dans Fallout, tu passes un test et après ils te disent. Il y a un test comme ça au début, je me rappelle, dans Fallout 3, et quand tu jouais à ça, il t'avait un test de il prédéfinissait en fait. Tu vois, c'est un truc con comme ça, mais ouais. Au début, quand tu me parlais de ça, je croyais que c'était un peu un test où il voyait l'avenir. Comme à la mini report, tu vois, par rapport au crime, tout ça, mais non.
Non, mais en fait, c'est plus, on voit les domaines dans lesquels tu es fort. En fonction de ça, on va dire, toi, tu seras ça quand tu seras grand. Le meilleur métier pour toi, c'est ça.
Ils ont vu que donc pour elle, c'était le meilleur métier, c'était de se faire baiser, quoi.
Non, non. En fait, c'est pas ça. Marie Banaise, elle n'était pas prostituée à la base. C'était une flic. Mais le problème, c'est que elle a toujours eu un problème avec ce système-là. Enfin, elle a toujours eu un problème avec l'autorité en général, si tu veux. Et bon, elle a un passé. J'en dirai pas plus. Je vous laisse le découvrir. Et bon, en m'écoutant, je pense que t'as compris. En gros, on est un peu dans une société où c'est un peu la dictature, quoi, on va dire.
Mais ce que je veux savoir, c'est ça se passe à Paris, c'est bien ça?
Oui, oui. Enfin, au début, ça se passe à Paris. Plus tard, ça se passera au Caire. Et plus tard, ça se passera en l'espace.
Et est-ce qu'il y a toujours le PSG dans le futur?
Je ne sais pas. Ils ont pas développé. je ne sais pas si Qatar est toujours là.
Bon. Peut-être les dictateurs à la fin de l'époque. Ouais.
Voilà. Et le truc, c'est que, en fait, moi, ce que j'ai adoré déjà dans la ligne, c'est que j'adore cette ambiance-là. Tu veux cette ambiance vachement sombre, cette ambiance vachement oppressante où il y a des caméras partout, où même tu veux dans l'appart de Marie Banès, par exemple, il y a une caméra, quoi.
Ah ouais.
Et en fait, l'un des premiers trucs qu'on t'explique dans la ligne,
c'est que
en gros, il y a un bâtiment où il regroupe tous les enregistrements de tout ce qui se passe chez tous les habitants de Paris, quoi.
Putain.
D'ailleurs, il y a des scènes d'humour par rapport à ça. En gros, bon, à un moment donné, elle est dans son appart, il y a un mec qui arrive, elle est à moitié à poil, et elle lui dit, c'est pour les mecs qui regardent par la caméra, le mec il fait non mais c'est faux, il regarde jamais, il regarde que quand ils sont obligés. Ouais bien sûr, prenez-moi pour une conne en plus. Il y a plein de situations comme ça qui sont vachement bien faites.
D'ailleurs, c'est la série est diffusée en MP3.
Ouais.
Donc ça veut dire que même si vous l'écoutez, bah vous pourrez pas voir la nana à poil.
Voilà.
De pervers que vous connaissez.
Je vous le dis tout de suite, la ligne en fait c'est un scénario de SF.
Mmh.
Donc elle menait sa vie tranquille, tu vois, et malheureusement pour elle, bon gré mal gré, elle va se retrouver embarquée dans une histoire qui la dépasse complètement, et en gros, elle va passer tout le reste de la série à découvrir pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Et le scénario est vachement bien construit, tu te poses plein de questions, à chaque fois qu'on apporte une réponse, c'est jamais un truc... alambiqué, quoi, si tu veux, qui arrive un peu comme un cheveu sous la soupe.
Ouais.
C'est très bien rythmé. Et franchement, ça se laisse suivre, c'est génial, quoi.
Et ça dure combien de temps, vrai?
Alors, le truc, ça, c'est un des défauts de la série, par contre. C'est que, en gros, là, pour le moment, on est à peu près à 68 épisodes. La série n'est toujours pas terminée. Et en gros, c'est des épisodes de 5 minutes, si tu veux. En gros, c'est un épisode, une scène. Un épisode, une scène. Un épisode, une scène. Et, le truc qui est un peu pénible, je trouve, un peu comme les autres séries d'Audio Dramax, hein, c'est le site qui diffuse cette série, c'est notamment là qui a Poseidon, dont je vous avais parlé aussi, et Eden. Et le problème, c'est que en début ou en milieu d'épisode, à chaque fois, ils diffusent le générique de la série, en fait.
Uh-huh.
Et quand tu les écoutes un à un, ça va, tu vois, ça passe très bien. Quand tu les écoutes séparément. Mais quand tu les enchaînes, au bout d'un moment, tu vois, te taper le générique, ça commence à devenir lourd, quoi. Et le truc qui me fait un peu peur là-dessus, c'est que si à un moment, tu vois, ils décident de regrouper tous les épisodes, bah, je me demande comment ils vont faire, parce qu'en fait, la musique est tellement bien intégrée dans la mise en scène du truc, que, en fait, je vois pas comment ils peuvent faire compiler tous les épisodes sans laisser la musique. Et le problème, c'est que c'est vachement lourd, quoi. Je veux dire, toutes les 5 minutes, tu entends la même musique, c'est au bout d'un moment, la musique est vachement sympa, si tu veux, mais c'est pas le sujet, mais au bout d'un moment, t'en as marre, quoi.
Surtout au bout de 68 épisodes.
Ouais, 68 épisodes, 5 minutes, alors j'ai pas fait le calcul, mais ça fait beaucoup. mais franchement, c'est tellement bien raconté que ça vaut le coup, quoi. Alors, en plus, j'en ai pas parlé, mais le jeu d'acteur est juste génial. Marie Banez, elle est jouée, mais la comédienne qui est derrière, bravo. Son sparring partner, Melkarn, il est aussi génial. Kaz, le pirate informatique, il est parfaitement dans son rôle. Franchement, le jeu d'acteur est de haute volée. Et tu me diras, c'est important, mais c'est pas si évident à faire. Parce que si beaucoup de sagas MP3 tombent dans l'humour, c'est parce que c'est finalement c'est peut-être un peu aussi bon, j'exagère un peu, mais c'est quand même beaucoup plus difficile de faire de l'humour, parce que tu peux te permettre de faire des voix déformées, d'utiliser des logiciels pour déformer ta voix, tu peux même prendre des acteurs qui sont assez mauvais dans le fond, comme c'est une série d'humour, ça peut passer quoi. Alors que là, une série sérieuse, mais c'est vraiment une série très très sérieuse, un mauvais jeu d'acteur, ça passe pas quoi. Tu l'entends tout de suite, ça passe pas. Et justement, là, pendant 68 épisodes, je trouve vraiment que les acteurs font un super boulot. Et en plus, le jeu d'acteur est soutenu par une bande-son, que ce soit au niveau de la musique ou des bruitages, qui est vraiment au top.
Et c'est en VF ?
Oui, bah oui.
Mais non, ça existe aussi des séries MP3 en VO.
Oui, enfin, je sais pas si ça... Je t'avoue, j'ai jamais tenté de regarder s'il y avait des séries en VO, mais... je suis pas sadique au point d'infliger à nos lecteurs une série en VO quand même.
Tu es bien le tyran. Hein.
Audiodramax est un site français. D'ailleurs, je vous incite à vraiment à écouter leurs autres séries qui sont géniales. Bref, La Ligne, c'est vraiment une très très bonne série. C'est très bien raconté. Ça s'écoute très bien. Encore une fois, le seul gros défaut que je vois, c'est cette histoire d'épisode de 5 minutes. Ce qui serait sympa, je pense, c'est que ça serait un projet, tu vois, où il recompilerait les épisodes, en fait, où il fasse une espèce de director's cut, quoi, où là, tu vois, il referait un peu la mise en scène pour avoir pour qu'une saison, en fait, il y a 3 saisons pour le moment, et pour qu'une saison, ça fasse un peu comme un film, quoi, si tu veux. Un film de 2-3 heures, tu vois. Et franchement, ça serait excellent, quoi.
Et c'est gratuit?
Ah oui, c'est gratuit.
Alors pourquoi tu te plains?
C'est gratuit, c'est très bien fait. Et encore une fois, bravo à Audiodramax, c'est vraiment excellent. L'ambiance déchire.
Bah bravo à eux, je vais jeter un coup d'œil de ce pas. Tu m'as donné très très envie d'aller écouter cette série MP3. C'est gratuit en plus, comme nos podcasts, donc profitez-en. Et voilà. Je pense que aujourd'hui on s'est tenu à 1 heure de podcast, on va essayer de respecter même si on a dépassé de 3 minutes, c'est pas grave.
Oh, t'inquiète pas, en coupant ça avec en coupant ça va faire 1 heure, t'inquiète.
Faisons le director's cut.
Voilà. Bon, allez, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
Salut.